France Culture.
Gaëlle Loriot-Prévost, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
On vous a laissé hier à l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2, sur votre départ de Londres. Vous quittez l'architecte Zaha Hadid pour rejoindre une agence qui est l'agence d'architecture Dominique Perrault. Vous êtes entrée dans cette agence en 1989 et de fait, vous n'en êtes jamais repartie. Je voudrais qu'on voit pour ce troisième temps les débuts de votre travail à l'agence, le travail avec Dominique Perrault, et en particulier qu'on s'arrête un long temps sur ce que vous avez fait entre 1989 et 1998, autrement dit le projet de la Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, qui a été la grande réalisation que vous avez faite avec Dominique Perrault. Alors déjà pour commencer, comment êtes-vous arrivé dans cette agence? Vous en avez entendu parler. Que représentait à l'époque Dominique Perrault dans la société, dans le monde architectural et pour vous?
Dominique Perrault était un jeune architecte. Il venait de livrer une école qui s'appelait Lessier, l'école à Marne-la-Vallée. Une école d'ingénieurs, un grand toit incliné blanc. Et c'était le toit qui devenait, j'allais dire, une cinquième façade. Donc c'était particulier. Et cette architecture m'interpellait, donc j'y suis allée. J'y suis allée au départ pour travailler sur l'architecture intérieure de l'hôtel du département de la Meuse, concours public qu'il avait gagné. Le démarrage des études de ce concours ont été décalés et c'était simultanément à l'époque où il commençait à travailler sur le concours de la Bibliothèque nationale de France. Et donc, j'ai travaillé sur le concours et j'ai travaillé en commençant à faire des maquettes d'études, chose que donc, je savais faire. J'avais une certaine habileté à faire ça et donc j'ai fait beaucoup de maquettes d'études sur le projet sous sa direction jusqu'à ce qu'il, bon, que le projet soit fait.
Alors comment avez-vous travaillé ensemble ? Vous disiez que vous avez travaillé sous sa houlette, donc sous sa direction. À quel moment avez-vous réussi à gagner en autonomie, puisque vous étiez vous chargé de l'ensemble de l'éclairage, de l'acoustique et du mobilier? Est-ce que ça a été dès le départ comme ça? Est-ce que c'est progressivement, de certains types de maquettes, vous êtes passé à d'autres?
Oui, cela se fait, j'allais dire, petit à petit. C'est en forgeant que l'on devient forgeron et on apprend son métier. C'est particulier de travailler sur un projet d'une telle ampleur. Les aménagements intérieurs viennent évidemment obligatoirement dans un second temps. Il y a d'abord la structure, même si on y pense toujours, parce qu'on pense un tout.
C'est ce que vous expliquez dans la première émission. Difficile de dire, il y a l'aménagement intérieur et l'architecture extérieure, tout est ensemble. C'est-à-dire pour ça aussi que vous vous entendez si bien.
Oui, et c'est pour ça que ce sont des intérieurs d'architecture et pas de l'architecture intérieure. Il y a une osmose, une symbiose entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Cette architecture intérieure sont des petites architectures, jusqu'à la chaise, jusqu'à la lampe. Et donc, ça s'est fait de façon, j'allais dire, assez naturelle. Et c'est vrai que travailler sur l'éclairage, sur la lumière, permet d'avoir un regard très transversal, parce que on doit s'intéresser à tout, au programme, aux matériaux, à la lumière naturelle, et pour comprendre et pour positionner les choses comme il le faut. Et aussi, on a eu la chance exceptionnelle d'avoir une maîtrise d'ouvrage qui était l'État, mais avait représenté par des personnes d'exception et qui était très constituée. Il y avait une architecte côté maître d'ouvrage qui était toujours là pour pouvoir dialoguer et rendre compréhensible pour les architectes les demandes des bibliothécaires et le programme. Il y avait un acousticien aussi, côté maître d'ouvrage, qui travaillait avec nous. Nous avons aussi un acousticien, etc. Donc c'était vraiment un travail d'échange, de dialogue avec l'équipe du maître d'ouvrage aussi, et le travail que l'on faisait au quotidien.
Quand on se replonge dans ces époques-là, dans ces années-là, Gaëlle Loriot-Prévost, et qu'on a entendu ce que vous nous avez raconté dans le deuxième épisode, c'est-à-dire ce parcours de formation, d'apprentissage, à travailler sur les objets, à travailler la scénographie d'exposition, puis à travailler sur les grandes peintures avec Hadid, on se dit, Vous arrivez dans une agence qui est une petite agence, auprès d'un architecte qui n'est pas encore ce qu'il est devenu. De fait, là, il y a un avant et après BNF pour Dominique Perrault. Et vous-même, il a 36 ans, vous avez 10 ans de moins, donc vous êtes très jeune. Et vous vous lancez dans un projet qui est le dernier chantier pharaonique de François Mitterrand, président. Dans quel état d'esprit étiez-vous ? Est-ce que vous vous posiez des questions de votre responsabilité ? Est-ce que vous aviez peur ? Est-ce que vous ne vous posiez pas toutes ces questions parce qu'il fallait avancer ? Si vous vous remettez dans ces années-là et que vous repensez à la jeune femme que vous étiez, tout d'un coup, sur ce chantier-là, vous étiez comment, vous ?
Je pense qu'on ne se pose pas de questions, on fonce, on travaille 24 heures sur 24. On n'a pas le choix, mais aussi on est habité. C'est parce que c'est exceptionnel comme commande. C'est une chance.
Une chance, vous le prenez comme une chance.
Oui, c'est une chance inouïe. On le prend comme une chance sur le moment. On ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais quand on regarde après, derrière, c'est formidable. Quand on regarde la bibliothèque des années 95-98, parce que François Mitterrand inaugure une bibliothèque vide, il n'y a pas de mobilier, il n'y a pas de livres. La bibliothèque est après inaugurée par Jacques Chirac, l'étage au public, et après en 98, l'étage des chercheurs est ouvert. Quand on regarde après cette bibliothèque-là, cette bibliothèque aujourd'hui, elle a quand même pas vieilli, c'est extraordinaire. Les matériaux ont une pérennité inouïe. Ce projet nous a permis de développer tout ce travail sur la maille métallique. Ça nous a permis aussi, on a fait un travail extraordinaire sur le jardin de la bibliothèque, qui est quand même un élément fondateur de la bibliothèque. C'est particulier. Donc on travaille, mais on travaille vraiment beaucoup, parce que c'est aussi un moment où on passe du travail manuel au travail informatique. Donc c'est aussi particulier. Nous, il y a des milliers de dessins qui sont faits à la main. Il y a des plans, ce qu'on appelle les plans généraux, qui sont faits avec l'outil informatique. Mais tous les détails, tout ce qui fait, je veux dire, plus ma matière, sont faits à la main. Donc on est au rotring, la lame de rasoir, le typex, hein, le blanc, pour corriger. Et on dessine, et on dessine, et tout le temps, quoi. Mais
d'ailleurs, il y a des milliers de pages de dessins. Une exposition en 2018 qui permettait de plonger dans le processus de création, et un livre a été édité qui retrace toute l'aventure de la BNF. Et effectivement, c'est des milliers et des milliers de dessins que vous avez gardés dans des archives. Et on voit bien l'évolution du travail de l'architecte. Donc ça signe aussi le glissement de l'architecture dans ces années-là, entre donc 89 et 98. C'est 10 ans de travail, quoi.
Oui, c'est 10 ans de travail. Et c'est 10 ans d'un travail, c'est vrai, non-stop, donc on ne voit pas les années passer, mais c'est 10 ans d'un travail très riche parce que comme c'est un grand projet, comme c'est le dernier grand projet de François Mitterrand, ça nous permet de faire des expérimentations, ça nous permet, comme il y a beaucoup, beaucoup de surface, on peut mettre au point des choses, on peut mettre au point, même quand on recherche le bois, pour habiller cette bibliothèque, là, on peut aller chercher des bois particuliers.
Le bois de Doucier.
Exactement, qui est un bois qui vient du Brésil. Alors aujourd'hui, on n'aurait peut-être plus le droit, évidemment. Mais en même temps, chaque époque a ses contraintes et a ses responsabilités. Mais l'engagement de la commande publique et notre engagement nous a permis de faire toutes ces recherches, de faire ces choix. Et comme après, nous avons une commande totale, on a dessiné ces mobiliers, j'ai dessiné ces mobiliers, alors qu'au départ, quand on nous a dit qu'il faut dessiner des mobiliers pour une bibliothèque, moi je me suis posé la question, pourquoi dessiner des mobiliers alors qu'il existe tant de mobiliers formidables ? Est-ce vraiment nécessaire de dessiner encore, d'en créer des mobiliers particuliers ? On a même fait, à l'époque, une proposition à la bibliothèque de faire une réédition des chaises de Jean Prouvé. Et la bibliothèque a dit non, chance, quelque part pour nous, pour moi, et donc j'ai dessiné cette chaise de la bibliothèque qui est aussi une petite architecture, aussi qui se doit et qui se devait d'être extrêmement confortable, parce qu'un chercheur reste des heures et des heures assis sur sa chaise, donc il faut que ce soit confortable, qu'il soit soutenu. Et aussi cette chaise, elle a cette particularité, donc il y a l'assise, et son cadre est un peu plus large que l'assise. J'y tenais beaucoup et c'était extrêmement important parce qu'elle permet au chercheur, donc à la personne qui travaille, ça détermine une aire de travail, donc un espace de travail qui lui est propre. La chaise est aussi un peu lourde parce que pour pas qu'on puisse la déplacer dans tous les sens, pour que la géographie de la place de travail soit parfaitement déterminée par son mobilier. Et elle est aussi déterminée et positionnée par les lampes des salles de lecture, qui sont elles aussi une petite architecture, une géométrie très simple, hein, c'est un L. Et cette lampe avait une autre particularité, c'était une lampe qu'on a développée avec en particulier Jean-Paul Lamoureux, qui est un acousticien éclairagiste tout à fait inconnu du grand public, mais qui est très connu des architectes, qui est assez exceptionnel, parce qu'il a cette double casquette d'éclairagiste et d'acoustique. Et avec lui, sur la partie technique, on a développé cette lampe qui était une lampe à fibre optique. C'est-à-dire que la source lumineuse de la lampe était sous la table et la lumière était guidée par des fibres optiques pour arriver dans la lampe et après éclairer l'espace de travail, l'espace où les livres étaient posés. Et la fibre optique permettait de filtrer les ultraviolets et les infrarouges de la source lumineuse. Donc on avait une protection des ouvrages jusqu'au bout. Donc, toute la chaîne était respectée. Alors aujourd'hui, ça paraît incroyable, parce qu'aujourd'hui, avec les LED, on pouvait tout faire. Mais à l'époque, de faire ce travail de fibre optique, c'était aussi une recherche et quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'était possible, pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas une lampe, il y avait 3500 lampes. Donc, la dimension du projet permettait ces expérimentations qui étaient formidables.
Il reste la chaise des étudiants, des chercheurs de la BNF sur le site François Mitterrand. Les lampes d'études, les lampes de table, qui restent vraiment votre patte, votre signature. C'est-à-dire que vous avez posé, vous et Dominique Perrault, les jalons, en 10 ans, avec cette immense réalisation, de votre travail futur, ensuite, puisque vous restez aussi comme justement celle qui a travaillé le bois, qui a d'ailleurs... Pourquoi ce bois de Doucier, en dehors du fait qu'il venait du Brésil, qu'est-ce qu'il a de particulier ? Il est à l'entrée des salles de lecture, il est sur la façade, il est sur les chaises.
En fait, quand vous regardez la bibliothèque, il n'y a pas de couleur, il n'y a que des matériaux. Et le bois de Doucier a une particularité, c'est que c'est un bois très dur, donc très solide. C'est un arbre qui est très gros. Donc, on a pu faire un travail sur ce qu'on appelle du plaquage déroulé, c'est-à-dire que vous travaillez le plaquage comme une peau d'orange, vous déroulez l'arbre, et en plus, c'est un bois qui se travaille donc en plaquage, en bois massif pour les sols, en bois d'habillage pour les murs, c'est le même bois partout. Et ça, c'était extrêmement important pour donner une unité. C'est un bois qui a des couleurs rouges, rouille, c'est un bois qui répond dans ses couleurs au tronc des pins qui sont dans le jardin de la bibliothèque. Donc, on a une harmonie de couleurs de bois. Et le fait qu'il soit très dur, c'est un bois qui n'est pas traité. Il est juste encaustiqué, si vous voulez. Et ça, ça veut dire que l'odeur aussi pour nous, pour moi, était très importante. Quand on arrive dans un lieu, l'odeur, elle fait partie de l'ambiance du lieu. Ça fait partie des éléments invisibles. C'est comme l'acoustique. Et même la lumière, on la voit, mais en fait, on l'aperçoit. On la voit pas. Ça paraît tellement évident qu'il y a la lumière. Et ça fait partie de la magie des lieux, quoi. Quand on arrive dans un endroit, la lumière, elle la révèle. Elle est visible, mais elle est invisible. Moi, je ne sais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'est une matière qui est palpable par ses émotions. Et ça, c'est extrêmement important. Et dans la bibliothèque, donc, il y a de la lumière. y a du béton, parce que tous les grands piliers sont en béton, c'est un béton brut, donc c'est une matière. Le métal, la maille métallique, c'est une matière, ce bois de doucier, et il y a cette fameuse moquette, évidemment, qui avec cette couleur, une couleur...
Rouge terre.
Oui, rouge terre, rouge écureuil, terre battue, une couleur un peu particulière, qui était extrêmement importante comme choix de couleur, parce que quand on regarde la maille métallique, le métal prend la couleur du tapis, la couleur du bois, même le béton. Quand vous faites des photos à la bibliothèque, le béton prend une couleur rosée. Donc cette couleur donne toute cette chaleur à la bibliothèque, parce que c'est important qu'il y ait une ambiance très chaleureuse dans une bibliothèque pour pouvoir travailler, se concentrer, y rester longtemps. Il faut avoir envie d'y revenir de par les ouvrages qui sont, etc. Mais c'est surtout, il faut qu'on y vienne pour travailler. C'est un lieu d'études. Hein. François Mitterrand a toujours souhaité un lieu d'études. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus juste, c'est encore plus juste, parce qu'avec toute... Demande la mise en ligne de Gallica, etc., des ouvrages, quelque part, on n'a plus besoin de venir à la bibliothèque. On peut tout faire de chez soi. Mais on vient toujours à la bibliothèque parce que c'est un lieu d'études, c'est un lieu propice pour se concentrer, pour travailler. Et c'était ça, notre objectif.
Et je disais donc que vous avez posé les jalons de ce qui allait devenir la pâte Loriot-Prévost par la suite, donc le bois, en effet, les matériaux. Les éléments moins visibles, l'acoustique, l'olfactif et la lumière. La lumière, c'est quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Donc là, à la BNF, lustre d'entrée, de l'auditorium, certains accrochés au plafond, d'autres suspendus à des fils, les lampes des tables de travail. Et c'est aussi là, me semble-t-il, Gaëlle Loriot-Prévost, que vous avez travaillé, inventé votre tube lumineux. Comment est née cette idée du tube lumineux ?
Ce sont des objets qui étaient initialement très bien dessinés, qui sont justes, parce que dans le monde industriel, on ne rajoute pas d'éléments qui ne servent à rien. Ils sont pérennes, très importants quand vous travaillez sur des grands objets architecturaux. Et ils ont la qualité d'être un tube, donc d'être rond, d'être circulaire. Ça veut dire que la lumière qui est diffusée, et la lumière aussi qui s'accroche sur le luminaire, fait que l'objet ne devient pas invisible, mais s'intègre, à mes yeux, beaucoup mieux dans l'architecture. Et donc, moi, j'ai pris ces éléments et je les ai domestiqués. J'ai fait des adjonctions de grilles de défilement, de couleurs, d'habillage des câbles d'alimentation pour les faire rentrer dans le monde de l'architecture et les sortir du monde industriel.
C'est pas des simples tubes banals, vous voulez dire. Vous les avez un peu transformés quand même.
Je les ai beaucoup transformés, mais en partant d'une base solide. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et moi, c'est ce que j'aime de moi. Je trouve que dessiner pour dessiner, c'est formidable, mais de faire un travail à partir d'eux, moi, ça me plaît beaucoup. Parce que je trouve qu'il y a un dialogue, il y a un échange, mais un échange même entre les objets, quoi. C'est pas obligatoirement un échange entre deux personnes, mais et vous vous confrontez aussi à une matière. Et ça, je trouve ça très enrichissant. Il y a une chose qui est très importante, je trouve, à dire pour l'éclairage de la bibliothèque, parce que le tube dont on parle, il est visible dans certaines zones de la bibliothèque, mais quand vous regardez, quand vous vous approchez de la bibliothèque, dans les salles de lecture en particulier, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'éclairage direct. Tout est en éclairage indirect. Et c'est ce qui donne aussi cette ambiance la nuit quand vous vous approchez, vous êtes sur l'esplanade et vous vous approchez de la bibliothèque, vous voyez des milliers de lucioles, mais c'est de l'éclairage indirect. Ça veut dire que c'est un éclairage doux, c'est un éclairage presque comme à la maison. Et donc, le lieu d'étude, même en fin de journée, même en soirée, etc., est là. Et ça, c'était aussi un souhait pour moi. Je tenais absolument d'avoir un éclairage indirect pour que la lumière soit douce et domestiquée pour les lecteurs, pour l'ensemble des personnes qui viennent travailler dans cette bibliothèque.
Donc, si je comprends bien, les mots de douceur, de confort, de concentration, ce qui est propice à la concentration, ont présidé au choix des matériaux, des formes qui ont donné lieu aux lampes, aux assises, aux tables, et puis à l'atmosphère générale de la BNF pour vous.
Oui, c'est essentiel. Il faut.
Vous aviez toujours en tête lieu d'étude, lieu d'étude.
Exactement.
Il faut pouvoir y revenir.
Il faut souhaiter y revenir. Il faut. C'est important. De toutes les manières, un chercheur revient. On revient quand on travaille. On ne termine pas son travail d'un seul coup. Donc, c'est absolument important d'avoir envie de revenir, de s'asseoir et de s'approprier l'endroit où l'on travaille.
Vous l'avez testé vous-même ? Vous êtes allé lire, travailler, étudier là-bas ?
J'ai testé beaucoup de chaises de la bibliothèque parce que pour mettre au point une chaise, c'est compliqué parce que il faut que l'ergonomie soit bonne. Donc, on a travaillé avec le. Non, c'était très intéressant l'appel d'offres qui a été lancé pour la chaise de la bibliothèque parce qu'il y a eu un appel d'offres particulier, était ce qu'on appelle un appel d'offres sur performance. C'est-à-dire que j'ai dessiné une chaise et les entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres devaient venir avec un prototype de chaise et expliquer comment elles allaient travailler et comment elles allaient après développer le projet avec nous. Et donc, il y avait 3 entreprises qui avaient répondu et on a eu 3 prototypes. Et donc, on s'est assis sur les chaises devant la première chaise, qui n'était pas aussi confortable qu'aujourd'hui. Et on a choisi sur un prototype avec la bibliothèque, l'entreprise qui allait développer les chaises de la bibliothèque. Donc, on s'est assis sur, peut-être une dizaine, quinzaine de prototypes avant d'arriver exactement à la bonne courbe, au beau dossier, etc., avec l'aide d'un ergonome qui était intégré à l'entreprise. L'entreprise qui a développé la chaise de la bibliothèque était une entreprise, j'y étais parce que l'entreprise n'existe plus, l'entreprise Martin Stoll. Il y avait un vieux monsieur qui était absolument formidable, qui était Martin Stoll lui-même, qui nous disait, moi je suis l'ergonome, c'était un très grand monsieur, un très fort, mais vraiment. Et il avait une manière de s'asseoir et de sentir l'ensemble des éléments et des composants de la chaise qui était absolument extraordinaire. Et il avait un feeling qui était très très juste par rapport à l'ergonomie. Je ne sais pas si moi j'avais ce feeling aussi fin que cet homme qui avait une expérience de chaise sur quelques décennies, parce que c'était un monsieur qui avait plutôt 60-75 ans à l'époque. Donc c'était vraiment assez génial.
Cette chaise, elle a la particularité d'avoir ce cadre un peu plus large, vous l'avez dit, que le dossier, mais aussi le cadre en lui-même est rectangulaire,
tout à fait,
donc très rigide, et à l'intérieur le dossier est très courbe, donc cette chaise elle a une double présentation, à la fois très carré, même si c'est rectangulaire, mais on voit bien ce cadre là et la courbe, la souplesse du dossier. Ça, c'est, vous l'avez expliqué aussi, pourquoi ce cadre était important pour vous.
Oui, il y a ce cadre, c'est un peu l'archétype de la chaise. Voilà, c'est un cadre avec 4 pieds. Et après, cette feuille de bois, cette courbe, c'est le confort. Non, parce que cette courbe aussi, elle bouge, elle est un petit peu installée sur ressort. Et donc, elle permet d'accueillir, j'allais dire, toutes les morphologies. Nous sommes tous différents, donc il faut que cette courbe puisse accueillir toutes les morphologies possibles. Et il y a un petit détail que moi j'aime beaucoup, c'est que le dossier bouge, il tape sur le cadre, mais il y a une petite pièce en cuir derrière le cadre qui permet d'assourdir le bruit. Donc, on n'entend pas le mouvement, mais on a cette petite bascule qui donne cette notion de confort qui est extrêmement importante.
Est-ce qu'au final, vous diriez, Gaëlle Loriot-Prévost, que ce chantier, ce travail que vous avez effectué pour la Bibliothèque nationale de France, c'est une réussite pleine et entière, quand vous regardez rétrospectivement cette fois l'œuvre finie? Vous la referiez tout pareil?
C'est une question difficile. Je pense qu'on peut toujours améliorer des choses, mais en même temps, j'ai le sentiment qu'on la ferait, dans la même écriture, mais peut-être que certains détails où on s'aperçoit peut-être qu'ils vieillissent moins bien, peut-être aurait évolué. Mais en même temps, quand on va à la bibliothèque aujourd'hui, bon, c'est la même que celle de 1998, que celle de 1995. C'est extraordinaire, comme elle vieillit pas. Et elle vieillit pas de par les choix de ses matériaux et de par les choix de son architecture. Je me souviendrai toujours un architecte, en 1995, quand il visitait la bibliothèque, il me disait, c'est incroyable parce que on n'a pas le sentiment que c'est un nouveau bâtiment. On a le sentiment que c'est un bâtiment qui était déjà là. Et ça, pour moi, c'était une grande qualité parce que ça voulait dire que il y avait déjà une espèce de patine. Je ne sais pas si c'est une patine et le mot juste, mais il y avait déjà le bâtiment avait déjà sa propre vie. Et ça, je pense que c'est une chance qu'un bâtiment déjà construit ait sa propre vie et porte sa propre émotion en lui-même et qu'il n'ait pas besoin du temps pour lui laisser que cette patine arrive. Quoi. Et ça, je trouve que c'est assez particulier.
C'est aussi, la BNF cite François Mitterrand, c'est aussi un des bâtiments à la fois les plus prestigieux et les plus polémiques de ces 30 dernières années. Vous étiez très jeune, donc, l'un et l'autre, avec Dominique Perrault. On a même parlé après d'une traversée du désert pour Dominique Perrault Architecture. Est-ce que vous avez su résister aux pressions, aux jalousies, aux critiques et est-ce qu'au final, pour vous, ça reste quand même comme un bon souvenir plutôt qu'un mauvais?
Oui, pour moi, c'est un souvenir, j'allais dire, merveilleux. C'est une école extraordinaire, c'est formidable. C'était surtout Dominique Perrault qui était en première ligne pour toutes les polémiques, les critiques, etc. Et surtout, ce qu'il y avait de particulier dans ce projet par rapport à l'architecture, c'est que c'est un projet qui s'est installé sur une friche industrielle. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de quartier. Il n'y avait rien. Et c'était vraiment, après, le quartier, c'est devenu le cœur du quartier. Et c'était la force et la vision de Dominique Perrault de faire une place pour Paris, une bibliothèque pour la France. Ça, c'était extraordinaire. Il fallait avoir cette vision, parce que du coup, c'est une esplanade, tout le monde y va. Quand on voit aujourd'hui tous les danseurs qui dansent sur cette esplanade en bois, en face des tours, etc., c'est une belle récompense quand le lieu est approprié de cette manière-là. Et moi, par rapport à mon travail, ce travail sur l'intérieur, et comme il est devenu visible après... Je passe après les orages, et il n'y a pas eu d'orage sur les intérieurs. Ça a toujours été... Il n'y a pas eu de critique, à proprement parler, sur le confort de la chaise, sur le confort du lecteur. Bon, ça a été, je veux dire, adopté tout de suite. Donc, moi, je suis passée après les orages.
À travers les gouttes. Avec une expérience décisive et fondatrice pour vous, oui. La suite... La chaise et les lampes sont devenues iconiques aujourd'hui. Mais il y a un matériau dont on n'a pas encore parlé et qui sera l'objet du quatrième épisode, Gaëlle Loriot-Prévost. C'est la fameuse maille métallique qui est donc votre signature, votre marque de fabrique. Vous nous direz quel mot vous utilisez demain. Merci beaucoup et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Gaëlle Loriot-Prévost. Réalisation Anne Pérez-Franchini, prise de son Yvan Charby, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.